Arthur Koestler avait connu la faim en Palestine, la peur en Union soviétique, la mort en Espagne, la persécution en France, le désespoir en Angleterre. Il avait vu des mondes disparaître, des illusions s'évanouir, les anges se transfigurer en démons et les rêves devenir cauchemars. Il avait vécu les orgies totalitaires, il avait connu les prisons et les camps.
C'est l'homme des plusieurs vies, des plusieurs langues, des plusieurs pays, des plusieurs villes.
C'est l'homme des jusqu'au bout aussi. Hein.
Et des jusqu'au bout.
Interminuit, José Sétien.
L'écrivain Arthur Koestler et son épouse Cynthia se sont suicidés aujourd'hui dans leur maison de Londres. On l'a appris dans la soirée que l'essayiste souffrait de leucémie et de la maladie de Parkinson. Arthur Koestler était devenu célèbre en publiant Le Zéro et l'Infini qu'il avait rédigé en 1941. Il avait pris l'exemple des purges staliniennes des années 30 pour dénoncer le processus de l'autoritarisme et du totalitarisme.
Il y a quand même deux Koestler assez distincts. Il y a un premier Koestler qui est le Koestler engagé dans la vie politique de son époque, qui va
Michel Laval
presque être dans tous les grands combats, au risque, au péril de sa vie. Hein. Ce n'est pas un germano-pratin, hein. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, comme vous le dites.
Un livre premier, À la recherche d'utopie, contient des textes politiques. Le second, À la recherche d'une synthèse, est consacré aux sciences et à la philosophie. J'avais près de 50 ans quand j'ai subi ce changement de vocation, qui est assez rare à notre époque de spécialisation pour avoir encore de sérieuses conséquences. C'est ainsi que je rencontre quelquefois des jeunes gens à qui on a fait lire à l'université Les Somnambules ou telle autre œuvre de la seconde période et qui ignorent que l'auteur avait écrit aussi des romans politiques. Et d'autre part, je vois des lecteurs plus âgés qui se rappellent Le Zéro et l'Infini, mais n'ont jamais entendu parler de ce que je publie depuis 20 ans. Quelquefois, j'ai l'impression d'avoir changé de sexe. Et précisément, l'un des principaux buts de ce recueil est de refléter la conviction que les deux cultures sont inséparables et qu'il faut chercher une synthèse capable de révéler la structure unitaire qui est leur fondement.
Quand je vous dis que j'ai abandonné la politique et j'ai fait une espèce de vœu en public en 1955. C'était en partie parce que...
INA, 1973.
Si on écrit politique ou fait de la politique, après un certain temps, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire la théorie politique sans se plonger dans la psychologie. Alors, vous plongez dans la psychologie. Après un certain temps, vous vous apercevez qu'on ne peut pas faire la psychologie sans s'immerser dans la théorie de l'évolution. Comment est-ce que nous sommes devenus ce que nous sommes? Et ensuite, vous êtes dans la biologie, vous êtes dans la physique, une continuité. Et ce qui paraît comme des virements brusques, ils ont cette logique intérieure.
Vous savez, dans les années 1960, 70, 80, c'était tout de même un écrivain très très connu.
Roland Quilliot.
C'est un écrivain qui avait une dimension symbolique, c'est-à-dire c'était l'écrivain aventurier qui avait décrit au fond les drames idéologiques et politiques de la première moitié du XXe siècle, comme pratiquement pas d'autres écrivains qui les ont décrits de cette façon-là. C'était une grande figure du même ordre, limite, que des gens qu'il a connus, avec lesquels il s'est brouillé, comme Sartre, Camus, de Beauvoir, etc. Donc c'était une grande figure. Bon, il est loin maintenant, mais il ne faut pas sous-estimer son prestige de l'époque.
Une vie, une œuvre. Arthur Koestler ou la quête de l'absolu.
Quand il arrive à Vienne, jeune étudiant, même pas étudiant d'ailleurs, les parents arrivent à Vienne en 1918, il est né à Budapest en 1905. Et c'est à la fin de la Première Guerre mondiale que, à la faveur, si j'ose dire, de la montée dans l'antisémitisme en Hongrie que la famille va partir pour s'installer à Vienne. À partir de l'âge de 19-20 ans, il commence à faire de la politique. On va voir dans quelles conditions. Donc là, on est en 1921-22. Ça commence par l'engagement sioniste. Et puis, ça, c'est jusqu'en 1956, au moment de l'invasion, au moment de l'insurrection hongroise, où il va d'ailleurs accomplir son dernier geste politique à Paris en allant jeter des pierres dans les vitrines du consulat de Hongrie. Mais à partir de cette époque, il va cesser toute activité politique. Mais quand je dis cesser toute activité politique, il ne prendra plus jamais position sur aucun fait politique. La guerre du Vietnam, il passe à côté. Mai 68 en France, il passe à côté, si ce n'est pour se moquer des insurgés, entre guillemets. Il ne fera plus du tout de politique. Il se consacrera à ce qu'étaient d'ailleurs ses premiers amours, hein, c'est-à-dire aux sciences, avec où il va emprunter des voies un peu aventureuses, hein, mais c'est une autre question. Donc au moins deux vies, une vie politique et une vie à caractère scientifique.
À l'époque, il faut même se rendre compte que on a pu vivre, des générations ont pu vivre en croyant que l'URSS c'était un paradis, que en ignorant tout de la Shoah, etc. Donc, et avec quelle idée chez certains qu'il fallait surtout contrôler l'information pour ne pas nuire à la cause que l'on défendait. Alors, à un certain moment, défendre l'idée de vérité a été original. Aujourd'hui, on est surinformé, donc ça paraît une banalité absolue. Mais il faut tout de même se rappeler cette époque où des millions de Français croyaient qu'en Union soviétique, on était en train de construire une société idéale, sans rien savoir de ce qui se faisait dans les camps du goulag, et en croyant que tous ceux qui avouaient qu'ils avaient commis des trahisons épouvantables, dans les grands procès de 36, 37, 38, etc., étaient vraiment coupables.
Les crimes de Staline, les horreurs du stalinisme, tout le monde pouvait s'en renseigner. Il y avait des documentations publiées par des dissidents, publiées par les gens qui se sont évadés des camps russes, des camps de concentration russes, etc. Mais les gens ne voulaient pas lire les documentations, ils ne voulaient pas faire face à la réalité. Ils aimaient leurs illusions, ce qui est très humain. Comme excuse psychologique individuelle, mais ce n'est pas valable pour excuser l'atmosphère politique qui régnait en ce temps.
L'avènement du communisme avait l'air d'être démontré scientifiquement par les marxistes, et on ne savait pas trop à quoi ressemblerait ce communisme, sinon qu'il était supposé être l'inverse du capitalisme. Et évidemment, c'est parce qu'il n'y avait pas de plan, en fait, de la société de l'avenir, que les choses ont mal tourné. Hein. Et effectivement, bon, mais c'est pas la seule chose que souligne Koestler, c'est même peut-être pas la plus importante. Koestler est venu au communisme, bon, par révolte contre les injustices de la société de l'époque, contre injustices qui se sont aggravées avec la crise de 29, qui a été épouvantable, mais aussi avec l'idée que Marx était un penseur rationnel, qu'il démontrait un certain nombre de choses, dont le fait que le capitalisme ne pourrait pas fonctionner indéfiniment, dont le fait qu'il ne reposait que sur l'exploitation de l'homme par l'homme, et dont le fait que, à terme, avec l'évolution technique, eh bien, un nouveau système politique et économique se mettrait en place, qui serait d'abord le socialisme, puis le communisme. Et à une certaine époque, ça a séduit des esprits de tendance scientifique. C'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement des ouvriers rêvant de changer le monde, mais des gens qui pensaient que Marx avait vu la vérité de l'évolution de l'humanité. Ah oui, parce qu'il faut tout de même se rappeler que Koestler, il a une formation scientifique de haut niveau. C'était, je dirais pas que c'est un enfant prodige, mais il n'en est pas loin. Il est entré à l'école polytechnique de Vienne, beaucoup plus jeune que tous ses camarades. Donc les sciences, c'est quelque chose de fondamental pour lui. Et donc, évidemment, tous les adhérents au communisme n'ont pas une formation scientifique, mais il y a eu une minorité de scientifiques qui ont eu l'impression que c'était quelque chose de plus rationnel que le capitalisme, dont on voyait bien les défauts et qu'il engendrait des crises, etc. Alors Koestler, c'est un très bon exemple. Et effectivement, la question de la valeur de la rationalité ou de la nature de la rationalité scientifique n'a cessé de l'obséder. Ce qui explique pourquoi, dans la deuxième partie de son œuvre, il est revenu sur la question des sciences.
Le long du couloir, un roulement caverneux et grave se rapprochait. Ce n'était ni un tapotement ni un martèlement. Les hommes enfermés dans les cellules 380 à 402, formant la chaîne acoustique et debout derrière leurs portes comme une garde d'honneur dans les ténèbres, imitaient à s'y méprendre le roulement étouffé et solennel des tambours apportés d'assez loin par le vent. Obachov, les yeux collés au Judas, Ficorus en frappant des deux mains en cadence sur la porte de ciment. Il fut surpris d'entendre cette vague de son voilé se continuer à sa droite par le numéro 406 et au-delà. Rip Van Winkle devait avoir compris après tout. Lui aussi tambourinait. Au même instant, Roubachov entendit à sa gauche, encore à quelques distances des limites de son champ visuel, des portes de fer qui roulaient sur leur glissière. À sa gauche, le roulement de tambour se fit un peu plus fort. Roubachov comprit que la porte de fer qui séparait les prisonniers au secret des cellules ordinaires venait de s'ouvrir. Les clés s'entrechoquèrent, et maintenant la porte de fer était refermée. Il entendit des pas qui s'approchaient, accompagné de bruits de glissade sur le carreau. Le roulement à sa gauche s'enfla comme une vague en un crescendo soutenu mais voilé. Le champ visuel de Roubachov, limité par les cellules numéro 401 et 407, restait vide. Les bruits d'objets qu'on traîne et qui glissent sur le carrelage se rapprochaient rapidement, et à présent, il discernait aussi des gémissements et des pleurnichements, on aurait dit ceux d'un enfant. Arthur Koestler, Le zéro et l'infini.
Donc, il rentre dans le mouvement communiste. À ce moment-là, la situation en Allemagne devient de plus en plus tendue. C'est les affrontements de rue entre les communistes et les nazis. En même temps, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la période où parfois ils marchent ensemble contre les sociaux-démocrates, puisque la ligne du Comintern à l'époque est la ligne du classe contre classe, et que les communistes professent dans tous les pays d'Europe que les vrais ennemis de classe, ce sont les sociaux-démocrates, plus encore que l'extrême droite, les nazis ou les fascistes. Il ne faut surtout pas oublier ça. Ça a largement contribué, à mon avis, à la victoire des nazis en Allemagne. Donc, Koestler ne se pose pas de questions. Il rentre dans cette logique. Il adhère au Parti communiste allemand. Il habite même dans le bloc, ce qu'on appelle le bloc rouge à Berlin, qui est en fait un quartier communiste. Et il va avoir l'occasion de partir en Union soviétique, officiellement, pour y faire un grand reportage sur la situation politique, économique, sociale. Voilà, il reçoit l'imprimatur du KPD, le Parti communiste allemand, du Comintern. Et il va partir pendant un an en Union soviétique, qu'il va parcourir en partie d'ailleurs, jusqu'aux confins de la mer Gaspienne, au moment de la grande famine en Ukraine, qui a fait, je vous le rappelle, pratiquement 6 millions de morts provoqués.
On était vraiment convertis, comme on est converti au catholicisme, croyance religieuse. Nous ne nous apercevions pas que c'était une conversion qui avait très peu à faire avec la raison et avec la logique. Et surtout, c'est un acte de foi.
Vous aviez déclaré d'ailleurs un jour, à propos justement de cette position, vous aviez déclaré « J'avais la foi fondée sur deux éléments, le refus du monde tel qu'il était et l'attraction de l'utopie. »
Exactement.
Thank you.
Ayant laissé tomber ses études et embrassé la cause sioniste, Kessler s'embarque bientôt pour la Palestine, où il sera tour à tour pionnier dans un kibboutz, rédacteur d'une feuille sioniste, vendeur de limonade dans le bazar de Haïfa, assistant arpenteur, démarcheur en publicité, avant de devenir correspondant au Moyen-Orient pour Ullstein, un des plus grands groupes de la presse libérale allemande de l'époque, et d'entamer une foudroyante ascension dans le journalisme.
On peut se demander, Roland Quillot, comment un personnage qui est à la fois aussi curieux, qui a une force de travail quand même assez phénoménale, qui est courageux puisque, comme vous disiez, il a l'esprit d'aventure, il va vraiment aller voir sur le terrain ce qu'il en est de ses convictions, et il a le courage de les remettre en question envers et contre tous. Comment un personnage pareil a pu être tout de même aussi dépressif, timide, doutant en permanence de lui-même, qui a même des problèmes avec l'alcool? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette façon d'être,
hein? Ah, mais ça, c'est ce qui rend l'œuvre de Kessler intéressante, hein. C'est vraiment un individu plein de contradictions, mais qui, justement parce qu'il est plein de contradictions, alors bon, il est à certains moments idéaliste, il est prêt à risquer sa vie de façon insensée, pour parallèlement aussi d'ailleurs à vivre dans la misère la plus noire pendant des années, parce que c'est quelqu'un qui s'est imposé une vie épouvantable, alors qu'il était très doué intellectuellement, il aurait trouvé sans problème à faire des affaires, mais ça ne l'intéressait pas. D'abord en Palestine, dans les années 25, il a vécu sans rien manger même pendant un certain moment, puis quand il a vécu à Paris, à l'époque où le nazisme contrôlait le monde germanique, il a vécu dans la misère, hein, la plus noire, mais donc très idéaliste par certains côtés, mais en même temps, ses enthousiasmes se dégonflent très, très violemment, brusquement. Il y a l'impression que la cause pour laquelle il s'est battu, il a risqué sa vie, c'était une folie, alors il se met à la critiquer, mais effectivement, pas en parallèle. C'est quelqu'un par moments de festif, qui boit effectivement un peu trop, qu'on peut trouver un peu trop arrogant, qui se bataille. Vous vous rendez compte qu'il s'est bagarré avec Camus, hein, un soir où ils avaient l'un et l'autre trop bu, ils se sont tapés dessus. C'est assez extraordinaire. Et alors, par ailleurs, des moments d'enthousiasme et des moments dépressifs, on peut dire qu'il a quelque chose de maniaco-dépressif, Kessler. Mais le tout, en même temps, avec une agitation permanente. C'est quelqu'un qui bouge tout le temps, mais qui passe de moments d'enthousiasme à des moments de pessimisme noir. Une partie de la fin de son œuvre, pas la plus pertinente, hein, et de très loin, mais c'est intéressant même d'un point de vue psychologique, est marquée par un fort pessimisme. Il se demande si l'humanité ne va pas se finir par se suicider. Hein.
Oui, il dit que c'est une erreur de
et oui, il pense et il demande s'il n'y a pas eu une erreur dans l'évolution.
Voilà. Il y a son rapport à l'alcool, hein, qui remonte à très loin. Hein, parce qu'en fait, on voit le problème apparaître alors qu'il est quand même encore très jeune. Il est assez violent, bagarreur. Il a giflé Camus, je crois, une fois.
Oui, alors Camus, avec qui il était ami, avec qui il a coécrit un livre contre la peine de mort.
Absolument. Oui, parce que ça a été un abolitionniste convaincu. Hein. Qui a beaucoup contribué, d'ailleurs, à l'abolition de la peine de mort en Grande-Bretagne.
Mais, alors, comment il en est venu à le frapper, alors?
Je crois que Camus lui en a pas tenu vraiment rigueur, ainsi de suite. Mais avec Camus, il y avait quand même une vraie sympathie, une sympathie profonde. Je pense qu'il regardait le monde d'une manière identique. La grande différence, c'est que Camus n'avait rien à racheter, puisqu'il n'avait jamais été communiste. Alors que Kessler, il y avait quelque chose, si vous voulez, qu'à mon avis, d'une certaine façon, il ne se pardonnait pas. Et quand il se retrouve à Saint-Germain-des-Prés, avec des intellectuels français, qui... au fond, si vous voulez, dont on pourrait discuter de l'engagement quand même, hein, et qui sont là à afficher des positions de gauche, à être d'une tolérance invraisemblable avec le système stalinien, et à tuer, je pense qu'il supporte pas. Il est attiré à la fois par ce monde qui est un monde brillant, on ne peut pas lui contester, et en même temps, il éprouve à son égard une répulsion totale, parce que, évidemment, ces gens se comportent comme lui-même, à un moment donné, s'est comporté, c'est-à-dire avec une tolérance vis-à-vis de ce système qui ne pouvait que provoquer chez lui, avec le tempérament qu'il avait, des réactions qu'on peut qualifier évidemment parfois d'excessives.
Oui, j'ai pas dit une chose importante, c'est que c'était un grand dragueur. Il courait les femmes tout en disant qu'à chaque fois, ça ne durait pas très longtemps, mais il en était amoureux. C'était pas un dragueur au sens strict. Et à chacune, il la trouvait merveilleuse. Ça durait quelques mois, parfois quelques jours. En fait, il séduisait énormément. Bon, mais c'est un personnage extrêmement complexe. Ce qu'il a vécu, c'est inouï. Entre 1925 et 1950, c'est hallucinant le nombre d'aventures qui lui arrivent dans tous les pays d'Europe, puisque au départ, c'est un juif hongrois. Alors, il n'arrête pas de sillonner l'Europe. Il va en Espagne, il va en Angleterre, il vit en France, il va en URSS, il va en Palestine. Bon, et à chaque fois, il sait décrire comme un très très bon journaliste. Mais en même temps, en y ajoutant une sorte d'ironie à l'égard de lui-même, de lucidité et d'ironie, oui, qui fait qu'il décrit ses propres sentiments avec une sorte de distance, un peu amusé, en se considérant lui-même comme un peu fou.
Lui aussi traversait Lisbonne en 1940.
Patrick Stroman.
Et non seulement donc il y avait fait une tentative de suicide, mais il avait aussi, 2-3 ans après, écrit un livre qu'il avait choisi de situer à Lisbonne, même si Lisbonne n'est jamais citée. Le pays en question s'appelle Neutralia. Mais il est tout à fait simple, évidemment, de reconnaître la capitale portugaise. Et d'ailleurs, vous avez le titre français qui est assez juste, Croisade sans croix, mais le titre anglais qui donc s'intitule Arrival and Departure, arrivée et départ, est peut-être encore plus près de ce destin de ces milliers de réfugiés qui tous sont passés par Lisbonne afin d'avoir l'opportunité d'aller ailleurs, que ce soit en Amérique du Nord pour la plupart ou en Amérique latine. Ce qui est évidemment formidable dans sa vie, c'est qu'il croise effectivement tout le monde au cours de son existence, entre autres donc lorsqu'il est à Paris, avant la guerre, après son séjour en Espagne, au cours duquel il a déjà été capturé et condamné à mort, il est libéré en Espagne, échangé contre l'épouse, je crois, d'un aviateur franquiste. Et là, il vit dans le même immeuble que Walter Benjamin, au 10 rue d'Amballe, dans le 15e arrondissement. Et donc, il se fait interner une première fois en France au camp Roland-Garros. Il se fait ensuite interner au camp du Vernet. Il arrive à Lisbonne, il apprend qu'un certain nombre de ses compagnons de lutte et aussi des auteurs et des intellectuels sont morts. Pour certains, par suicide, il apprend la mort de Walter Benjamin aussi. Et comme Walter Benjamin, qu'il avait croisé à Marseille lors de son passage par Marseille, que Walter Benjamin lui a donné la moitié de ce cachet de morphine, dans un accès de désespoir, en fait, dans un moment de désespoir, il décide aussi de se suicider, mais il échoue. Apparemment, il vomit, d'après ce qu'il écrit, il vomit les cachets dans l'évier de son hôtel. Donc, au bout d'un quelques semaines, il réussit donc son départ à Londres.
Alors, Patrick Stroman, il y a aussi, lors de ce suicide raté à Lisbonne, une des raisons, c'est pas seulement d'avoir perdu beaucoup de ses amis, mais aussi, il suppose que le manuscrit du Zéro et de l'Infini a été perdu.
Oui, alors, il y a plusieurs versions par rapport à cette histoire, parce qu'il y a aussi, à un moment donné, il dit aussi qu'il avait envoyé une version 10 jours avant l'arrivée des Allemands à Paris, à Londres. Donc, il est effectivement difficile de savoir de quel manuscrit il parle. En 2015, un étudiant allemand, je crois, a trouvé dans la bibliothèque centrale de Zurich le manuscrit en allemand du Zéro à l'Infini, Son Unfinstenes, donc le titre original, qui n'a jamais été destiné à la publication, évidemment, par Kössler, parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas publier en Allemagne. Mais est-ce qu'il pensait que ce manuscrit-là était perdu? Personne ne connaissait son existence. Donc ça date il y a peu. Mais est-ce qu'il pensait que c'était ce manuscrit-là qui était perdu? Est-ce qu'il pensait que c'était la version anglaise Mais il est tout à fait possible que lui-même n'était pas conscient de cela au moment où il a tenté donc de se suicider.
Durant son séjour en Palestine, Koestler s'était lié d'amitié avec un psychanalyste de Tel Aviv, Moshe Areven, qui se garda bien de lui proposer ses services. « Tu es un cas désespéré, lui disait-il, un de ces types qui commencent au bout d'une demi-heure à analyser leur analyste et le rendent complètement fou. »
Entre le Zéro et l'Infini et le Testament espagnol, il y a un autre livre qui est un roman, Spartacus, où il raconte donc l'histoire du soulèvement des esclaves sous Spartacus. Et en fait, ces trois livres, c'est ce qu'on appelle la trilogie romanesque, ont une unité, puisque les trois livres sont écrits autour du même thème, qui est le thème qui va obséder Koestler pendant toute sa vie, le thème de la fin et des moyens. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Bon. Et il va aborder le problème de trois manières différentes avec Spartacus. Le dilemme de la fin et des moyens va se poser à un moment donné de la révolte des esclaves. Crissus, qui est le chef gaulois qui est avec Spartacus, est prêt à tout pour gagner ce soulèvement. Spartacus considère qu'on ne peut pas tout faire. Et donc Spartacus va mourir, parce que Spartacus refuse de sacrifier les moyens à la fin. Dans le Zéro et l'Infini, c'est l'inverse, puisque Roubachov, le vieux bolchevique, le personnage central du livre, a en fait sacrifié les moyens à la fin. Comme dirigeant bolchevique, il a employé tous les moyens possibles pour faire triompher la révolution. Donc il est à l'opposé de Spartacus qui refuse d'employer tous les moyens pour faire triompher le mouvement. Donc on est dans les deux premiers livres dans une véritable impasse. Et dans le troisième, le personnage central, Peter Slavek, qui est confronté exactement au même dilemme, s'en sortira finalement sans véritablement choisir autrement qu'en se disant que l'action doit être simplement guidée par la conscience morale.
On a dit que la science connaît de mieux en mieux de moins en moins de choses. Mais cela ne s'applique qu'au processus d'éparpillement des spécialisations. Il serait tout aussi juste de dire que nous en savons de moins en moins sur de plus en plus de choses. Cela vaudrait pour le processus complémentaire de l'unification de la matière et de l'énergie, ou des particules et des ondes, en un seul fleuve conceptuel, avançant majestueusement vers un océan d'abstraction. Car plus les connaissances sont précises, plus les symboles deviennent insaisissables. La chasse aux quarks commence à ressembler à la quête mystique des nuées de non-savoir. La science est finalement le plus glorieux exploit de l'esprit humain, et sa plus cruelle frustration. Toutefois, la chose étant admise, nous pourrions devenir plus réceptifs à des phénomènes tout proches qu'une préférence trop exclusive pour les sciences physiques nous a empêchés de voir. Nous pourrions sentir le vent qui souffle à travers les brèches de l'édifice causal, mieux remarquer les événements confluents et comprendre que nous vivions au pays des aveugles. Les limites de notre équipement biologique nous condamne peut-être à regarder l'éternité par le trou de la serrure. Essayons au moins de déboucher ce trou pour nous servir de nos yeux, même si nous avons la vue faible. Arthur Koestler, Les racines du hasard.
Effectivement, il a fait de la après-guerre de la philosophie des sciences dans un esprit de reconstruction, c'est-à-dire que il a eu le sentiment que le matérialisme radical qui avait dominé au début du XXe siècle s'était associé à des choix politiques irrationnels, et alors il a essayé de défendre des idées, enfin l'idée d'une science qui serait une affaire de créativité, d'imagination, et qui ne serait pas associée nécessairement à un matérialisme étroit. Ce qu'il a essayé de montrer, c'est que ce qui compte dans la réalité, c'est pas tellement les éléments dont elle est composée, c'est son degré d'organisation. Chaque niveau de la réalité est à la fois une partie et un tout. Elle est un tout par rapport aux éléments qui la contiennent, et elle est une partie par rapport à des entités d'ordre supérieur. Et tout s'emboîte comme ça. Holon, c'est la totalité, et il y a Own dedans, c'est qui évoque l'idée d'une unité. Donc voilà, chaque partie d'un organisme, puisqu'il se réfère d'abord aux organismes, même s'il a tendance à généraliser à l'ensemble de la réalité du monde, est une unité dans un ensemble, une totalité. L'important, c'est de montrer que nous avions affaire à des réalités de plus en plus complexes qui rendent impossible l'avènement des phénomènes indescriptibles et incompréhensibles en termes purement physiques que sont les sentiments, les émotions et les idées, à la limite. Donc, à un certain moment, il faut penser tout de même l'insertion de l'immatériel dans le matériel, ce que beaucoup de scientifiques ont du mal à faire. Ils ne connaissent que ce qui est mesurable. Or, bien entendu, nous savons tous que le non-mesurable est omniprésent, d'une certaine façon. Dans notre vie, c'est lui qui domine, presque.
Il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que dans Le Zéro et l'Infini, Koestler part d'un ouvrage qui est habituellement présenté comme un ouvrage politique, qui vise à critiquer le communisme stalinien, et on voit qu'il se décale progressivement de la question de la politique à la question de ce sentiment océanique et de ce que signifie le rapport de l'être humain au monde. Et donc, mon hypothèse serait qu'il a vécu à ce moment-là des expériences très particulières, et ces expériences vont le travailler tout au long de sa vie, et ce qui intéresse Koestler, c'est de trouver des sortes d'absolus, des sortes de modèles parfaits, et il va comme ça rentrer dans le communisme, également dans un certain réductionnisme scientifique, et à un moment donné, il s'échappe, en quelque sorte. Et donc, je crois que de la même manière, Les Racines du Hasard est une critique d'un certain rationalisme ou d'un certain scientisme dont il est peut-être lui-même sorti à un moment donné par le biais de ces expériences-là. Donc je crois que chez lui, toute sa réflexion dans Les Racines du Hasard est une tentative de mettre en sens, d'auto-théoriser une expérience très intense qu'il a vécue dans les prisons espagnoles. Hein, donc ça, c'est pour dire deux mots de l'origine du projet de Koestler. Avec moi, je trouve ce décalage très intéressant de questions politiques à des questions parapsychologiques, on pourrait dire en quelque sorte. Et donc, l'hypothèse que j'avais dégagée, c'est que ces expériences sont une sorte de solution trouvée par le psychisme qui, un peu à l'image du roseau qui va se plier dans la tempête, évite de rompre. Et donc, l'hypothèse serait qu'effectivement, Koestler, à ce moment-là, étant dans une très grande souffrance, il est sur le point d'être exécuté, il vit cette expérience mystique qui lui permet peut-être de survivre et de trouver une solution à cette souffrance terrible qu'il est en train de vivre. Et je crois qu'il vit ça au bout d'environ 80-90 jours d'emprisonnement. Il est libéré au 92e jour. Quand Koestler se suicide avec son épouse le 3 mars 1983, il avait indiqué dans son testament que John Beloff, qui était un chercheur à l'université d'Edimbourg en psychologie, devait s'occuper de trouver une université britannique qui accueillerait une chaire de parapsychologie. Et comme John Beloff avait déjà des recherches dans le champ de la parapsychologie à l'université d'Edimbourg, et puis l'université d'Edimbourg étant une université assez prestigieuse, eh bien c'est celle-ci qui a eu finalement le legs de Koestler. Et donc, j'ai effectué ma thèse en co-direction entre l'université de Lyon 2 et l'université d'Edimbourg. Toute une partie des travaux vise à, peut-on étudier scientifiquement des choses comme la télépathie, par exemple? Et il y a eu comme ça, en particulier, un protocole qui existe toujours, qui s'appelle le protocole Ganzfeld, qui consiste à mener comme ça des sortes d'expériences de télépathie pour voir si on obtient des effets statistiques et significatifs. Et puis, à l'inverse, des recherches qui visent à montrer comment les expériences paranormales, ou considérées comme telles, seraient le fruit de croyances erronées, de superstitions, et de tout un ensemble de phénomènes qui permettraient d'expliquer de manière classique ces expériences. Donc il y a toujours ces deux approches, d'une manière très prudente, très mesurée, un peu dans la filiation léguée d'ailleurs par Koestler dans sa manière d'aborder ces phénomènes. C'est-à-dire, ce sont des travaux dans lesquels on essaye de voir si les personnes réagissent quelques secondes, voire quelques millisecondes, à des images qui vont leur être montrées. Donc on regarde, si par exemple on vous montre une image très violente ou une image érotique, on peut contrôler avec un certain nombre de capteurs votre stress par exemple. Et donc si on vous montre une image avec un serpent ou un chien qui vous attaque, la plupart des gens, on va avoir des capteurs de stress qui montrent l'effet que ça a sur eux. Et donc dans une des recherches qui est la plus à la mode à l'heure actuelle, on inverse ce protocole au niveau de la temporalité. C'est-à-dire qu'on regarde si les personnes réagissent quelques secondes ou quelques millisecondes avant de voir ces images. Et là encore, comme pour le Ganzfeld, on obtient des résultats sur le plan statistique qu'on ne devrait pas obtenir normalement. Ce qui pose une nouvelle fois la question, mais alors s'il y a un tel effet de perception comme ça, qui inverse la flèche temporelle, comment expliquer un tel effet? Est-ce possible et comment l'expliquer? Alors ça, on ne sait pas encore.
Arthur Koestler,
j'ai rencontré Arthur Koestler en Angleterre. J'ai fait beaucoup de télépathie avec lui.
Uri Geller.
Au moins 10 fois. Il faisait un dessin et moi je le lisais dans son esprit et je l'ai redessiné exactement. Je crois qu'une fois, un des dessins qu'il a fait pour moi, qui était très inhabituel, il a dessiné une araignée. C'est très inhabituel. D'ordinaire, les gens ne dessinent pas des araignées. Ils dessinent des étoiles, des maisons, des voitures, des navires, des smileys, des arbres, etc. Ou des animaux, des chiens, des chats, mais pas des araignées. Et on m'a emmené en Angleterre.
Ladies and gentlemen, Uri Geller.
C'est intéressant parce que le camouflage qui a permis de m'amener en Angleterre, c'était une émission de télévision qui s'appelait le David Bimbleby Show. Mais derrière tout cela, il y avait le MI5. Ils voulaient me tester et ils m'ont testé. Ils m'ont fait tester par un certain nombre de scientifiques. Ces scientifiques ont fait venir des gens un peu étrange pour m'observer. Ils ont fait venir Arthur Koestler. Ils ont fait venir Arthur C. Clarke, qui a écrit 2001, Odyssée de l'espace. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Arthur. Arthur Koestler. Il a reçu le prix Sonning, qu'il a reçu pour sa contribution exceptionnelle à la culture européenne, si je ne me trompe pas. De façon bizarre et synchronisée avec cela, c'est lui qui m'a convaincu de venir vivre en Angleterre. En 1981-82, on avait des discussions. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai décidé de vivre dans un village qui s'appelait Sonning, et qui s'écrit exactement de la même manière que le prix qu'il avait reçu. Je ne peux vraiment pas vous parler du travail secret que j'ai fait avec Arthur Koestler, parce que c'est du matériau du MI5, et que la CIA a publié, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg. Je peux vous raconter un phénomène extraordinaire. Ils pensaient que quand des objets se matérialisaient, quand ils se concentraient en quelque chose qui voltait à travers la pièce, d'un point A à un point B, ou se matérialisait, se dématérialisait, ça se produisait autour de moi, ils m'ont vu le faire sans cesse. Le MI5 l'a rapporté à la CIA, et les scientifiques de la CIA ont imaginé la chose suivante. Ils ont pensé que si quelqu'un pouvait créer des poltergeists, des esprits frappeurs, et faire disparaître et apparaître des choses, des objets, alors peut-être que 20 Uri Geller pourraient faire disparaître une ville. C'était très sérieux. C'est incroyable. Ça a l'air d'être un extrait d'un film de science-fiction qui pourrait effacer une ville ou dématérialiser une ville entière. Et je pense que Koestler y a contribué beaucoup, ainsi que Arthur C. Clarke. Je crois que, indirectement, c'est moi qui ai mis en place le programme de vision à distance pour l'armée et la défense américaine. Lorsque le CIA et le NSA, quand il prenait des gens comme moi et qu'on avait des visions à distance. Ça s'appelait la vision à distance. De quoi il s'agit? Dans les années 70 et même au début des années 80, il n'y avait pas d'outils technologiques qui nous permettaient de voir à travers les nuages. Aujourd'hui, les satellites peuvent voir à travers les nuages. Ils utilisaient des gens comme moi pour rapporter de l'information. Par exemple, où se trouvaient les sous-marins soviétiques, les sous-marins nucléaires avec des missiles. Les Russes avaient des missiles nucléaires sur les trains qui bougeaient sans cesse à travers la Russie. Le président Carter, après la fin de son mandat, donnait des conférences dans les universités. Et un étudiant s'est levé et lui a posé la question. Monsieur le président Carter, est-ce que vous pouvez nous raconter une aventure bizarre qui vous soit arrivée lorsque vous étiez président? Il a dit, ah oui, je me souviens, un avion soviétique avec des informations top secrètes s'est écrasé au Zaïre et on n'arrivait pas à le trouver. Donc on a fait venir des voyants pour le chercher. Et ils ont trouvé l'avion. Moi, on m'a demandé d'espionner l'ambassade soviétique à Mexico. On m'a demandé d'effacer des disquettes que des agents du KGB faisaient sortir du Mexique vers la Russie en passant par Paris sur Aéromexico et ils changeaient d'avion à Paris. Ils passaient sur l'aéroflotte pour Moscou. Mon boulot, c'était de me rapprocher de Vorontsov et de bombarder son esprit télépathiquement pour le forcer à signer l'accord. Je peux parler de ces choses-là, mais comprenez bien que on m'a pris au laboratoire des radiations de la CIA, je ne peux pas tout dire. Si je réussissais à effacer les disquettes des agents du KGB alors que j'étais assis derrière eux sur Aéromexico, vous savez, ils portaient ces disquettes dans une valise diplomatique qui était accrochée à leur poignet par une menotte. Et ce n'est que des semaines plus tard que la CIA avait l'information que ces disquettes avaient été effacées.
La controverse est le levain de la science. Mais cette fermentation est souvent contrariée par les pseudo-controverses qui paraissent refléter des différences d'opinion quand elles ne reflètent en réalité que des préférences pour certains aspects d'un processus complexe aux dépens de tous les autres. Arthur Koestler, Le cri d'Archimède.
Quelqu'un qui a toujours pris des risques, parfois complètement insensés. Alors, il a des livres. Les livres principaux sont rationnels. Et puis, de temps en temps, il risque quelque chose. Et par exemple, il se demande l'affirmation sur laquelle il ne pourrait jamais y avoir de transmission de caractère acquis n'est pas, dans certains cas, arbitraire. Et alors, il étudie en détail. L'intéressant, c'est presque l'histoire qu'il fait de la biographie de Kammerer, qui a été très connu, qui a été très reconnu d'ailleurs comme un grand savant, et puis qui prétendait avoir montré dans certains cas que certains caractères acquis pouvaient être gardés puis transmis. Alors, il se trouve que il avait travaillé sur des grenouilles et après il n'est rien resté de ses laboratoires. Et il se trouve aussi qu'il s'est suicidé. Et alors, tous ses adversaires ont dit qu'il s'est suicidé parce qu'il a compris qu'il avait fait fausse route, voire même parce qu'il avouait par là qu'il était un imposteur. Koestler dit que ce n'est pas si évident que ça. Alors, c'est moins grave, à mon avis, comme prise de risque que les essais dans lesquels il a essayé de défendre la possibilité de transmission d'un cerveau à l'autre, de sensations parapsychologiques. Il a essayé de faire ça à la fin de sa vie. À mon avis, c'était vain, sauf qu'il considérait qu'il pouvait tant prendre des risques. Voilà. Et puis qu'il était tourmenté par ça. Il avait le sentiment à plusieurs reprises que ce qu'il pensait, juste d'autres étaient en train de le penser au même moment. Bon, mais ça, c'est des aspects tout à fait secondaires de son œuvre, même en philosophie des sciences. Les grands livres, c'est par exemple Le cri d'Archimède, une grande somme sur la créativité humaine, dans ses différentes dimensions, c'est-à-dire l'humour qui vous surprend toujours. Vous attendez à ce qu'on vous raconte une histoire, puis brusquement ça saute dans l'absurde. La créativité artistique, alors là il avait fait des études d'histoire de l'art pour montrer que les artistes n'avançaient pas au hasard, mais qu'à chaque révolution, il y avait en quelque sorte une mutation intellectuelle. Et puis par ailleurs, la créativité scientifique. Alors là, il était un des tout premiers à le faire, des études sur la façon dont les grands noms de la science d'autrefois travaillaient. Et il s'est aperçu qu'ils avaient des passions d'une part, que de temps en temps ils se rendaient aveugles à certains aspects du réel, et en même temps que de temps en temps ils avaient des éclairs étonnants. Ils entrevoyaient des aspects du réel que personne n'avait cru avec eux, mais parfois en tenant pas compte de façon arbitraire de certaines des objections qu'on aurait pu leur faire à juste titre à l'époque. Et parfois de temps en temps avancer alors même qu'il y a des objections fortes qu'on pourrait vous faire, c'est une bonne chose en science. Pour Koestler, la science, dans son moment d'élaboration, de recherche, etc., se fait de façon consciente en partie, mais parfois de façon un peu inconsciente, et puis elle rapproche parfois des phénomènes qu'on jugeait complètement hétérogènes les uns aux autres. Il y a un texte célèbre de Jacob où il raconte une de ses percées les plus importantes en biologie. Il était au cinéma, hein. Il était au cinéma, il s'embêtait un petit peu pendant le film, qui n'accrochait pas, et puis il commence à rêvasser sur le travail qu'il fait actuellement au laboratoire, et puis se dire, mais si on essayait telle solution, et puis telle autre, et puis si on rapproche tel phénomène de tel autre. Et puis à la fin, c'est Eureka, comme presque dans la mythologie des sciences. Il vous l'entrevoit, une nouvelle façon de penser des phénomènes qu'il séparait jusque-là complètement. Très souvent, les preuves d'une thèse apparaissent peu à peu, et elle parvient peu à peu à rendre compte des phénomènes atypiques qui devraient en principe inciter à l'abandonner. Et dans le Somnambule, Koestler fait une biographie des quatre grands fondateurs de l'astronomie, Copernic, Kepler, Galilée et Newton. Et il essaie de montrer, alors il s'est plongé tout de même, à l'époque c'était rare, dans leurs travaux, et il essaie de montrer qu'il y a un mélange permanent de lucidité scientifique et puis de spéculation un peu archaïque, théologique, etc., qui continue à être présente. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent même pas que Newton, qui est tout de même le fondateur de la physique moderne, dont tendance à dire c'est un grand rationaliste, est en même temps l'auteur d'un traité sur la topologie des enfers. Bon, c'est pour le moins peu scientifique. Et donc, il restait, à certains égards, un protestant à l'ancienne, se demandant comment les enfers étaient organisés, qu'est-ce qu'on savait d'eux, etc. Ça le gênait pas de faire ça, et puis en même temps de proposer un nouveau système, une nouvelle conception du système solaire, des planètes et du cosmos son ensemble, qui était, elle, était géniale d'un point de vue scientifique. Mais le mélange a duré assez longtemps.
Ces derniers textes, notamment le yogi et le commissaire, il est allé explorer les spiritualités japonaises et indiennes. Il a quand même réussi encore à se fâcher avec les pacifistes parce qu'il disait du mal de Gandhi. Et donc même à ce moment-là, il a réussi avec des gens qui n'étaient pas belliqueux a priori à se fâcher avec eux.
Oui, bon, il n'aime pas les pacifistes, hein, il ne les a jamais aimés. D'ailleurs, au passage, Orwell non plus, hein, c'est qu'Orwell appelait les pacifistes les fascifistes. Hein, c'est-à-dire, en fait, il disait c'est des compagnons de route des fascistes. Orwell disait qu'il n'y a qu'une seule façon de combattre le fascisme, hein, c'est pas en se souillant par terre, en fumant un pétard, hein, c'est pas comme ça qu'il le disait, mais c'est en prenant les armes et puis en se battant jusqu'au bout. Voilà. Bon, de ce point de vue-là, ils étaient sur la même position. Ils se connaissaient bien, ils étaient amis. Hein. Ils sont devenus amis par la suite, pendant la Deuxième Guerre. Mais Orwell, Mais dans le yogi et le commissaire, moi, c'est un texte que je trouve extraordinaire, parce que c'est vraiment une problématique de fond. Quand Koestler dit, finalement, on peut concevoir le rapport au monde dans l'action dans le monde de deux manières complètement différentes. En gros, il dit le commissaire, c'est c'est la brutalité, c'est la force, c'est la violence, c'est la guerre, et ainsi de suite. Bon. Tout ce qu'il a côtoyé. Et à côté de ça, il dit, mais le yogi, c'est autre chose. Le yogi, c'est un rapport à l'univers, une osmose avec l'univers. C'est la transformation possible de l'univers par l'intérieur. Le commissaire agit vers l'extérieur, le yogi agit par l'intérieur. Alors, quand on réfléchit bien à ce qu'il trouve dans le testament espagnol, ce qui va réapparaître dans Le Zéro et l'Infini, à la fin du Zéro et l'Infini, la découverte de la fiction grammaticale, la découverte du « je », la découverte de l'individu, finalement, je ne suis pas certain que la position profonde de Koestler ne soit pas la position, l'aspiration au yogi plus qu'au commissaire qu'il redoute plus que tout. Donc je pense que les Gandhis ont eu tort de s'énerver contre lui et qu'ils auraient dû lire peut-être les choses un peu différemment. Cependant, à la fin de sa vie, c'est autre chose. Là, il n'est plus dans le rapport au monde, dans son mode de transformation. Il est dans son rapport au monde par rapport à l'éternité.
Le texte qu'il a écrit sur les 3 mois qu'il a passé à attendre son exécution, bon, n'a pas d'équivalent en matière d'intelligence face à une situation comme ça. Comme il a une capacité de décrire tous les états par lesquels il est passé, en disant que finalement, ce n'était peut-être pas aussi tragique qu'on s'attendrait toujours à ce que avoir affaire à quelqu'un qui regarde en face la mort, l'éternité, etc. Il dit qu'il n'y est jamais parvenu, qu'en revanche, il s'est beaucoup ennuyé, il s'est beaucoup étriqué sur le plan de sa personnalité, il a pris des tics, des petites manies, il a recouru à des procédés à certains moments magiques pour essayer de conjurer l'angoisse qui, de tout de même, à certains moments, montait en lui. Alors, de ce point de vue-là, il y a une sensibilité koestlérienne qui comprend effectivement l'agitation, les contradictions, etc., mais qui, à certains moments, débouche sur une lucidité prodigieuse, hein, une finesse psychologique, en quelque sorte, justement parce que, au fond, à certains égards, de temps en temps, il est un peu obsédé par lui-même, et puis il est capable de temps en temps de se laisser tomber en quelque sorte complètement, et puis de se regarder simplement avec ironie. Les gens qui lisaient Le Zéro et l'Infini, ils avaient pour la première fois un témoignage sur les procès de Moscou, enfin, les fausses confessions des victimes de Staline, etc. Bon, ils ouvraient les yeux, beaucoup de gens ne croyaient pas que ça existait, etc. Bon, donc tous ces romans sont des romans de la perplexité, du désarroi. Le titre en anglais du Zéro et l'Infini, c'est « Darkness at noon », c'est-à-dire « l'obscurité en plein midi ». Voilà où on en est en 1939. Et on ne sait plus qu'est-ce qui est légitimement politique, qu'est-ce qu'on a le droit d'espérer. Et alors, en plus, les sciences humaines montrent les causes inconscientes qui agissent sur l'être humain, mais alors que deviennent la liberté, la responsabilité, etc. Il y a un roman qui s'est « Croisade sans croix ». Croisade sans croix, c'est la psychanalyse de quelqu'un qui voudrait devenir résistant, hein, et qui tombe dans les mains d'une psychanalyste parce que il donne des signes de névrose, et la psychanalyse fait tout ce qu'elle doit faire en tant que psychanalyste. Elle lui fait parler de son enfance, et alors on finit par retrouver des souvenirs enfouis, etc. Et elle finit par comprendre pourquoi il est si angoissé, si perfectionniste. Il vit depuis son enfance avec des complexes de culpabilité. Alors, en simplifiant à l'extrême, il a blessé grièvement à un certain moment son frère, etc. Donc voilà, la psychanalyse a d'une certaine façon raison. Et en même temps, si vous n'écoutez que des psychanalystes, il n'y a aucune raison d'aller se battre contre le nazisme. Et à la fin, alors qu'il est complètement convaincu que oui, il doit privilégier la vie privée, vivre avec la femme qu'il aime, et qu'il doit commencer par rejoindre, etc. Ben non, il change au dernier moment, et il part rejoindre les Anglais, et se battre avec les Anglais. Pour dire que nous vivons avec deux visions de l'homme totalement différentes, et rationnelles, l'une comme l'autre. Je connaît pas de texte du XXe siècle qui ait décrit de la même façon la situation de quelqu'un qui attend d'être fusillé dans une prison espagnole, ou même la condition d'un juif hongrois immigré en France qui a été envoyé dans un camp de concentration français. Et puis le nombre de gens qu'il rencontre, c'est quelqu'un qui a rencontré Einstein, qui a annoncé à Louis de Broglie qu'il avait eu le prix Nobel. Donc il a rencontré énormément de gens, mais de lui-même, il donne une image qui tient compte de quelques qualités qu'il se reconnaît, mais beaucoup des ridicules, des contradictions, des humeurs variables qui lui sont propres. Donc voilà, parfois on se dit, dans la vie, l'idéal, c'est d'être équilibré, raisonnable, etc. Kössler, c'est l'exemple même de quelqu'un qui a été déraisonnable pendant l'essentiel de sa vie, et en même temps qui, un, a échappé à la mort, parce que s'il avait été raisonnable, ben, il aurait fini en chambre à gaz, comme beaucoup de membres de sa famille, d'ailleurs. Donc, et s'il avait mené une vie bien calme, bien tranquille, il n'aurait rien eu à dire, et en plus, il n'aurait probablement même pas survécu. Voilà. Il parle de la dimension positive de la névrose, d'une certaine façon. Il est, d'une certaine façon, névrotique, contradictoire, déchiré par des tendances opposées, mais il le reconnaît. Et puis peut-être que, c'est ce qu'il montre, nous le sommes tous sans trop y penser. C'est-à-dire que nous soutenons tous, suivant les moments, des thèses qui sont au fond un peu contradictoires. Lui, il le sait. Au moins qu'il est contradictoire. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Bon, par exemple, certains jours, on trouve que la violence est par principe mauvaise, et puis certains autres jours, on considère qu'il faut un minimum de violence, sans quoi les tyrans finissent par triompher. Quel est le bon dosage, d'une certaine façon ? Certains jours, on considère, à juste titre, d'une certaine façon, que l'individu humain, bon ben, il fait un bref passage sur Terre, dont il ne restera, dans la majorité des cas, rien. Kössler en a tout à fait conscience, il y a eu des milliards d'années auparavant, des milliards d'années après, de moi, de beaucoup de ceux que je rencontre, il ne restera strictement rien. Donc l'individu est un zéro, d'une certaine façon. Et à d'autres égards, quand on rencontre quelqu'un en comprenant sa sensibilité, sa façon intelligente de voir les vies et les choses, ses émotions, etc., eh bien, il y a quelque chose d'infini presque dans chaque homme.
C'était Une vie, une œuvre, Arthur Kössler ou la quête de l'absolu, avec le biographe Michel Laval, Roland Quillot, philosophe, Patrick Stroman, journaliste, Thomas Rabéron, professeur de psychologie clinique et Uri Geller, illusionniste. Arthur Kössler répondait à Éric Laurent, 1973. Prise de son, Thibaut Nassimben. Traduction, Michel Zlotowski. Lecture, Frédéric Serdal. Merci à Marie Semelin et Laurent Évrard. Mixage Julien Douminc, réalisation Philippe Baudouin, un documentaire de Lydia Benitzrak.
razzo, razzo.
Razzo, 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 razzo.